Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 1, scène 10. Plusieurs historiens assurent que si les Français avaient été battus à Borodino, c'est parce que Napoléon souffrait ce jour-là d'un gros rhume. Sans ce rhume, ses combinaisons eussent été marquées au sceau du génie pendant la bataille, la Russie eût été perdue et la face du monde changée. Cette conclusion est d'une logique incontestable pour des écrivains qui soutiennent que la Russie s'est transformée par la seule volonté de Pierre le Grand, que la République française s'est métamorphosée en empire et que les armées françaises sont entrées en Russie également par la seule volonté de Napoléon. S'il avait dépendu de lui de livrer ou de ne pas livrer la bataille de Borodino, de prendre ou de ne pas prendre telle décision, il serait évident en ce cas que le rhume, qui aurait paralysé son action, eût été la cause du salut de la Russie et que le valet de chambre qui oublia, le 28, de lui donner une chaussure imperméable, eût été notre sauveur. Dans cet ordre d'idées, cette conclusion est aussi plausible que celle qu'en manière de plaisanterie, Voltaire tire de la Saint-Barthélemy, due, dit-il, à un dérangement d'estomac de Charles IX. Mais, pour ceux qui n'admettent pas cette manière de raisonner, cette réflexion est tout bonnement absurde et contraire en tout point à toute logique humaine. À la question de savoir quelle est la raison d'être des faits historiques, il nous paraît bien plus simple de répondre que la marche des événements de ce monde est arrêtée d'avance et dépend de la coïncidence de toutes les volontés de ceux qui participent aux événements et que celle de Napoléon n'y a qu'une influence extérieure et apparente. Quelque étrange que paraisse à première vue de supposer que la Saint-Barthélemy, voulue et commandée par Charles IX, n'ait pas été le fait de sa volonté et que le carnage de Borodino, qui a coûté 80 000 hommes, n'ait pas été réellement ordonné par Napoléon, bien qu'il eût pris toutes les dispositions à cet effet, la dignité humaine, en me démontrant que chacun de nous est homme au même degré que Napoléon, autorise cette solution, confirmée à plusieurs reprises par les recherches des historiens. Le jour de la bataille de Borodino, Napoléon n'a ni visé ni tué personne. Tout fut fait par ses soldats, qui tuèrent leurs ennemis, non en conséquence de ses ordres, mais en obéissant à leur propre impulsion. Toute l'armée, français, allemand, italien, polonais, affamée, déguenillée, fatiguée par les marches qu'il venait de faire, sentait, en face de cette autre armée qui lui barrait le passage, que le vin était tiré et qu'il fallait le boire. Si Napoléon leur avait défendu de se battre contre les Russes, ils l'auraient égorgé et se seraient battus quand même, parce que c'était devenu inévitable. À la lecture de la proclamation de Napoléon, qui leur promettait, comme compensation aux souffrances et à la mort, que la postérité dirait d'eux qu'eux aussi avaient pris part à la grande bataille de la Moskva, ils avaient répondu par le cri de « Vive l'empereur !» comme ils l'avaient déjà fait devant le portrait de l'enfant qui jouait au bilboquet avec la boule du monde, comme ils l'avaient acclamé à chaque non-sens qu'il avait dit. Ils n'avaient donc plus qu'une chose à faire, répéter « Vive l'empereur !» et se battre pour gagner la nourriture et le repos qui, une fois vainqueurs, les attendaient à Moscou. Ils ne tuaient donc pas leurs semblables en vertu des ordres de leur maître. Napoléon lui-même n'était pour rien dans la direction de la bataille, puisqu'aucune de ses dispositions n'a été exécutée et qu'il ignorait ce qui se passait. Ainsi donc, la question de savoir d'une manière précise si Napoléon avait ou non un rhume à ce moment-là n'a pas plus d'importance dans l'histoire que le rhume du dernier soldat du train. Les historiens attribuent encore à ce rhume légendaire la faiblesse de ses dispositions, qui, selon nous, étaient au contraire mieux prises que celles qui lui avaient fait gagner d'autres batailles. Elles paraissaient inférieures aujourd'hui, parce que la bataille de Borodino fut la première que perdit Napoléon. Les combinaisons les plus profondes et les plus ingénieuses semblaient toujours mauvaises, et donne prise aux critiques savantes des tacticiens lorsqu'elles n'ont pas amené la victoire, et vice-versa. Les dispositions de Weyrother à la bataille d'Austerlitz étaient le modèle de la perfection en ce genre. Et cependant, on les a désapprouvés, à cause même de cette perfection et de leur minutie. Napoléon à Borodino avait joué son rôle de représentant du pouvoir aussi bien et même mieux que dans ses autres batailles. Il s'en était tenu aux mesures les plus sages. Aucune confusion, aucune contradiction ne peut lui être imputée. Il n'a pas perdu la tête, il n'a pas fui du champ de bataille, et son tact et sa grande expérience contribuèrent au contraire à lui faire remplir, avec calme et dignité, le personnage de chef suprême qui semblait lui être attribué dans cette sanglante tragédie.